Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire aujourd'hui, la guerre frappe le Liban. Le gouvernement de Netanyahou a procédé à des bombardements sur le sud du Liban, zone acquise au Hezbollah. Ce groupe paramilitaire islamiste chiite est un allié de l'Iran, ennemi historique d'Israël dans la région. Paolo, pour sa première chronique sur campus, revient pour nous sur les incidences de la mort d'Hassan Nasrallah et les incidences qu'elles vont avoir pour l'Iran dans les jours à venir. On aura également le plaisir de retrouver notre programme Pensée locale. Pensée locale, c'est le programme commun de la FRAP, la Fédération des radios associatives. En Pays de la Loire, Neptune FM, radio associative de l'Île-Dieu, nous propose un reportage sur les fouilles archéologiques qui ont lieu sur l'île en ce moment. À bord du pédalo, on vous propose également une très très belle interview d'Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart qu'on ne présente plus, abonnez-vous. Félix Janiard, lycéen bénévole de Radio MNE à Mulhouse, est allé à sa rencontre. Vous savez tout, alors ajustez bien votre gilet de sauvetage. C'est parti, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Paolo.
Salut.
Bienvenue sur les ondes de campus, c'est ta première chronique. Évidemment, tout le monde est le bienvenu à bord du pédalo. Et toi, ta spécialité, c'est la géopolitique. Et là, tu as décidé pour ta première chronique de nous parler du Liban, puisque à la une cette semaine, donc la mort du chef du Hezbollah au Liban par les forces armées israéliennes. Paolo, c'est une opportunité pour l'Iran, mais également une épreuve.
Oui, en effet. Alors, ce vendredi 27 octobre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a trouvé la mort lors des intenses bombardements lancés par Israël sur le territoire libanais. Cet assassinat, fêté comme une victoire par Israël et son premier ministre Benjamin Netanyahou, pourrait être le début d'un embrasement encore plus intense dans la région du Moyen-Orient. L'Iran, qui arme, protège et contrôle le Hezbollah, voit cet assassinat comme une menace devenue trop grande pour son influence dans la région. Sa riposte a été rude et spectaculaire. Plus de 200 missiles ont plus sur Israël et notamment sur Tel Aviv ce mardi soir. Une véritable démonstration difficile à évaluer. Les autorités israéliennes affirment que 90% des missiles ont atteint leur cible, alors qu'Israël assure que la quasi-totalité des missiles a été interceptée par son dôme de fer.
Mais pourquoi l'Iran participe à cette escalade de violence, Paolo ?
Alors, l'Iran cherche depuis longtemps à consolider un croissant chiite qui irait de Téhéran à la Méditerranée en passant par l'Irak, la Syrie et donc le Liban. Et ce contexte explosif pourrait alors être une opportunité pour Téhéran d'élargir cette ambition régionale en se montrant, en s'affichant. De plus, l'Iran est sous pression constante sur le plan international. Les États-Unis et l'Union européenne ont à de multiples reprises ces dernières années sanctionné l'Iran, notamment sur sa politique militaire. En effet, le 21 octobre 2022, l'Union européenne a sévèrement sanctionné l'Iran suite à la fourniture de matériel militaire à la Russie dans le cadre de son invasion à l'Ukraine. Téhéran pourrait alors utiliser l'échiquier du Hezbollah comme nouveau moyen de pression à l'encontre des puissances internationales.
Et néanmoins, Paolo, l'Iran ne doit pas oublier que le Hezbollah s'est affaibli avant la mort de son chef.
Oui, tout à fait. Il pourrait alors perdre de son influence au Liban dans les jours à venir si d'autres acteurs tirent leur épingle du jeu. En effet, des factions pro-sunnites du Liban, par exemple, ou encore des puissances régionales pourraient elles aussi profiter du contexte de guerre au Liban pour montrer leur puissance d'influence. L'offensive d'Israël contre le Hezbollah fait aussi monter les tensions entre l'Iran et l'autre puissance militaire qui finance Israël, à savoir les États-Unis, tout à fait. Cette hausse de la tension place l'Iran dans une position délicate. Il ne peut se permettre de se mettre encore plus à dos les Occidentaux qui pourraient le sanctionner sévèrement, notamment sur son programme nucléaire déjà contesté. Alors si l'Iran peut profiter de la mort du chef du Hezbollah pour étendre son influence au Moyen-Orient en montrant les crocs, il ne pourra pas se permettre de gérer cette transition de manière autoritaire au risque de s'attirer les foudres des puissances occidentales.
Merci beaucoup Paolo pour cette première chronique à bord du pédalo. Est-ce que tu connais Acide Arabe ? Est-ce que ça te parle ?
Non, ça ne me parle pas du tout.
Acide Arabe, c'est un groupe de DJ parisiens qui ont fait un morceau là, dans les années passées qui s'appelle Goulabi. C'est en featuring avec Awa. Awa, c'est un groupe de chanteuses israéliennes et elles rendent hommage à travers leurs morceaux à la culture et aux traditions yéménites. Alors je te propose qu'on écoute Goulabi sur le Centre FM. Restez bien avec nous, le pédalo revient très vite.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
À travers la France, il existe 28 autres Radio Campus entre Marseille, Rennes, Paris, Lille, Orléans ou Brest. Mais aviez-vous déjà entendu parler de Radio MNE ? Radio MNE est une des plus anciennes radios du réseau Radio Campus France. Ils sont basés à Mulhouse et je vous propose une belle production réalisée par Félix Jeanniard. Figurez-vous que Félix est lycéen, mais il est aussi bénévole à Radio MNE, Radio Campus Mulhouse. À son micro, Edoui Plenel.
Trois questions, 10 personnalités. Un reportage de Félix Jeanniard.
Nos vies doivent être prioritaires par rapport à leur profit.
Ça va bien dans une époque qui va très mal.
J'ai 75 ans, donc je bois des canons de 75.
Vous savez, c'est difficile à dire, ce même monde, enjeu le plus important.
Trois questions, 10 personnalités. Un podcast pour Radio MNE.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Félix et j'ai la chance de me trouver actuellement au Forum Latitude à Mulhouse, organisé par la librairie 47 degrés Nord, un forum qui dure tout un week-end et durant lequel se tiennent différentes conférences où sont invitées plusieurs personnalités publiques pour parler de divers enjeux sociétaux. J'aurai la chance, durant tout ce week-end, de pouvoir interviewer plusieurs de ces personnalités en leur posant trois questions. La première, pour débattre sur les enjeux actuels de nos sociétés et de notre monde. Une deuxième, pour parler plutôt d'un conseil littéraire qu'ils auraient à nous transmettre. Et la troisième question, où j'interroge les différentes personnalités sur une mesure concrète à mettre en place pour que le monde aille mieux. J'ai l'honneur de me trouver pour ce premier épisode en présence de Monsieur Edoui Plenel. Monsieur Plenel, vous êtes journaliste depuis 1976, vous êtes cofondateur et dirigeant de Mediapart depuis 2008, un média qu'on ne présente plus, et vous venez de sortir un nouveau livre qui s'intitule « Se tenir droit, 12 portraits pour une politique plus sensible » aux éditions Le Seuil. Comment ça va, monsieur Plenel ?
Ça va bien, dans une époque qui va très mal.
Tout d'abord, au vu de l'état du monde, dans lequel on progresse toutes et tous, quel serait, selon vous, l'enjeu des enjeux, l'enjeu le plus important?
Défendre l'égalité, c'est ce qui nous fonde, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la Déclaration universelle de 1948, c'est le moteur de l'émancipation, c'est ce qui nous a permis de conquérir des droits démocratiques, des droits sociaux, les décolonisations, les droits des femmes, la lutte contre les discriminations, et c'est ce qui est en péril aujourd'hui. Le retour des égoïsmes, le retour des logiques de puissance, le retour des logiques de domination mine l'égalité. Le fait que nous soyons tous égaux, naturellement, libres et égaux en droit, sans distinction de naissance, d'origine, de condition, d'apparence, de sexe ou de genre. C'est ce qui est en péril aujourd'hui, c'est ce qu'il faut absolument défendre. Et donc pour moi, l'enjeu premier, c'est cette question de l'égalité des droits. Il faut arrêter de laisser revenir cette monstruosité qui peut être meurtrière, qui peut créer absolument des désastres. Et en Europe, ça a été le cas avec la Shoah et les crimes contre l'humanité. Parce que la logique de l'inégalité naturelle, c'est celle qui amène une partie de l'humanité, un jour ou l'autre, à vouloir en supprimer une autre.
Ensuite, est-ce que vous avez lu récemment un livre qui vous a inspiré et que vous aimeriez nous partager ?
Oui, absolument. J'ai lu dans le train et puis je l'ai terminé en arrivant tellement je ne pouvais pas le quitter. Jeudi dernier, ce livre de Laure Murat qui a eu le prix Médicis Essai, qui s'appelle Proust, roman familial. Je ne l'ai pas quitté. C'est donc une universitaire, hein, une spécialiste de littérature qui enseigne aux États-Unis. Et en fait, elle raconte dans sa façon de partager l'œuvre de Marcel Proust, et donc à la recherche du temps perdu, et de la partager, y compris avec ses étudiants américains, elle raconte comment cette œuvre l'a aidée à se libérer. Elle est d'une très grande famille, aristocrate, d'aristocratie d'empire, mais qui s'est mariée avec d'autres aristocrates rescapés de la fin de la monarchie, puisqu'elle est la descendante de Joachim Murat, fils d'aubergiste et qui a fini roi de Naples en 1815 et qui avait épousé la sœur de Napoléon. Et donc elle est des Murat et puis des Deluine et donc toute une aristocratie avec des palais, des richesses, des fortunes, comme dans le feuilleton Downton Abbey avec des majordomes, etc. Et en fait, à travers son amour de Proust et comment Proust l'a aidé, on découvre comment le chemin de l'émancipation, eh bien, c'est toujours une bataille, où qu'on soit d'où qu'on vienne. Et en l'occurrence, elle a dû rompre avec sa famille, s'échapper, parce qu'elle est lesbienne, elle aime les femmes, elle vit avec une femme. Du coup, elle a découvert tous les combats de l'égalité. Elle serait traitée de wokiste par d'autres ici, si j'ai bien suivi les débats. Et elle est donc du côté de ce principe de l'égalité. Et c'est une telle violence. On découvre que simplement le fait d'avoir dit à sa mère, à son père, voilà, je suis lesbienne, j'aime les femmes, et voilà ma vie, et je veux vivre ma vie normalement, eh bien, ils ont tout. tout coupé avec elle. Ils n'ont plus voulu lui parler. Ils ont essayé de la déshériter. On découvre quelque chose d'une violence inouïe. Et là, on découvre combien les classes dominantes, les classes qui se croient bien nées ou bien pourvues, peuvent être d'une très, très grande violence en leur sein. Dès que, au fond, on les bouscule, dès qu'on bouscule leurs préjugés. Et là, c'est un livre que je n'ai pas quitté. Je le recommande vraiment, y compris à beaucoup de jeunes, y compris cette montagne littéraire qui est à la recherche du temps perdu, avec ses longues phrases, avec plein d'incises, et on n'ose pas rentrer dedans. Et là, c'est un très beau livre de liberté.
Pour finir, on sait que quand il est question d'enjeux sociétaux importants, on débat beaucoup, on en parle, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
On tient la digue là où on est. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du journalisme, de mon métier, un engagement. Un engagement au service, justement, du droit de savoir, d'un droit fondamental. Je pense être utile par mon travail, par mes révélations, par ce que fait Mediapart. On défend un journalisme d'impact au service de la société, au service de ses lucidités, au service de ses prises de conscience sur la corruption, sur les injustices, pour comprendre aussi, voir clair. Donc là où nous sommes, nous devons être au rendez-vous de notre liberté. Notre liberté implique une responsabilité. Ce n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas la liberté de marcher sur la figure des autres. Ce n'est pas la liberté de piétiner, d'insulter, de dominer, de se gaver, de profiter. Pour moi, la liberté, c'est la responsabilité que notre monde tienne, que notre monde tienne ensemble. Et vous voyez bien que c'est un message pour votre génération. Votre génération est une génération qui grandit dans la conscience que notre monde va à l'abîme. Le dérèglement climatique est là et nous savons qu'il menace le vivant du monde, et y compris celui de notre espèce. Et donc face à cela, des dirigeants, des classes dominantes qui essayent de vouloir profiter jusqu'à la dernière minute. Et vous devez être là pour leur dire, non, c'est fini de se gaver comme ça au détriment des autres. Il faut s'occuper du commun. Et puis c'est fini de nous proposer des boucs émissaires au nom de l'identité, le racisme, la xénophobie, la haine de l'autre, la domination, c'est une dérivation pour ne pas parler des questions communes. Donc on peut se dire que l'époque est difficile, qu'il y a de quoi être catastrophé, et moi je pense qu'au contraire, la catastrophe, il faut la défier, et que le tragique, c'est pas le malheur. Le tragique, c'est aussi, y compris dans la Grèce antique, c'est un moment, la tragédie, de prise de conscience. C'est un moment qui doit nous relever, qui doit nous amener à, comme disait Victor Hugo dans un passage des Misérables à propos de Gavroche, il disait « étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait ». Voilà la responsabilité de votre génération.
Vous venez d'écouter l'épisode consacré à Edwy Plenel du podcast 3 questions 10 personnalités, produit par Radio MNE et réalisé par Félix Jagnard. Un grand merci à la librairie 47 degrés Nord de m'avoir permis de réaliser ces interviews.
Vivre. pleurer. Je crois que tu es bien timide, on part en douce pour 20 000 miles. C'est ma Renault Cordy, des kilomètres sous la pluie.
Les bonnes grosses tartines de basse sur le Centre FM, Renaud Gordini, c'est le tout nouveau single de Holkan et la Vipère Rouge. On vient d'écouter donc Renaud Gordini sur Campus. N'hésitez pas à les streamer fort, hein. Tout ce qu'ils font en parallèle, c'est vraiment super. Holkan et la Vipère Rouge. À la suite des tempêtes de l'hiver, sur l'île Dieu, un promeneur a trouvé un crâne humain dans une falaise dunaire soumise à l'érosion. Cette découverte a conduit à des fouilles archéologiques qui ont révélé la présence d'un site datant de l'âge du bronze. Pour en savoir plus sur ces découvertes inédites, Laurent de Neptune FM a tendu son micro à Annabelle Chauvito, correspondante sur l'île Dieu pour le service régional d'archéologie, et Chloé Martin, archéologue topographe chez EVEA. Un reportage pensé en partenariat avec la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Durant le mois d'avril et septembre 2024, des fouilles archéologiques ont eu lieu sur l'île Dieu, secteur de la Pipe. Annabelle Chauvito, correspondante sur l'île Dieu pour le service régional d'archéologie.
C'est un site en fait que je surveille depuis 2011. L'érosion du trait de côte a fait son effet sur cette petite pointe et un aménagement était clairement visible. Et puis le temps a passé et l'hiver dernier, donc en février, après une grosse tempête, on a un promeneur qui est passé par là et qui a vu une anomalie dans cette falaise dunaire. Il pensait qu'on avait là un boulet de canon, donc il l'a enlevé et il s'est avéré que c'était un crâne humain. J'ai prélevé le crâne et ensuite la société EVEA, donc de fouilles préventives, a été missionnée pour faire un petit diagnostic de ce site. Donc on s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'une tombe à coffre. Un os a été prélevé pour pouvoir faire une datation. Et il s'est avéré qu'on était là sur un site du bronze ancien moyen, donc aux environs de 1600 ans avant Jésus-Christ.
De nombreux vestiges variés ont été découverts. Chloé Martin, archéologue topographe chez EVEA, et Annabelle Chauvito, correspondante sur les lieux pour le service régional d'archéologie.
On a trouvé donc le premier coffre qu'on avait déjà vu la dernière fois, hein, qu'on a pu ouvrir entièrement, et aussi donc un parement assez gros qui n'était pas du tout prévu, qu'on ne voyait pas du tout la première fois. Donc ce qui a un peu changé la donne en termes d'approche du site. Un parement, c'est l'espèce de gros la grosse muraille qui est juste devant en fait. On a trouvé aussi des restes osseux d'immatures et de jeunes adultes entre le parement et le coffre, et possiblement un deuxième coffre.
Et puis un aménagement en pierre, donc à l'avant, type petit cairn ou petit tumulus. Alors c'est complètement inédit ce type de site pour l'île Dieu, surtout la période est inédite, hein, puisqu'on a bien sûr des dolmens d'époque un petit peu plus ancienne, plutôt néolithique moyen, et là on est vraiment sur la proto-histoire, donc après l'époque des dolmens, donc pour l'âge du bronze. Donc l'âge du bronze, sur l'île on n'a quasiment aucun site, on en a un qui a fait l'objet d'une petite fouille préventive il y a 2 ans, mais qui a révélé très peu de vestiges, puisque voilà, ces vestiges étaient très mal conservés. Alors qu'ici, on a la chance d'avoir des squelettes inhumés dans du sable, et ce qui a permis la conservation osseuse de ces défunts jusqu'à aujourd'hui.
Et sur des pratiques funéraires complètement différentes que de ce qu'on pensait. Déjà, s'il n'y a pas un seul inhumé, mais plusieurs, donc déjà ça change la donne. Là, on a la forme du coffre qu'on n'avait pas du tout avant. Donc avant, on partait sur un petit coffre rectangulaire, puis au final, non, là, on est sur un coffre... Alors, il n'est pas ovale, mais il est fait en muret avec des parois de champs et autres. Donc effectivement, ça, c'est des données qu'on n'avait pas du tout. Donc d'un point de vue architectural, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Et donc c'est une période qui n'est pas du tout connue dans la région pour le funéraire, en tout cas. Et donc ça permet en plus d'avoir des données, parce que de toute façon, on sait qu'elles vont partir à la mer. C'est des données inédites, exceptionnelles pour la région. Donc c'est un peu un combo entre les deux, où on se dit, c'est le moment ou jamais de venir fouiller ce site.
Contrairement au cimetière des Noyers, qui se trouve à la Gournaise, où là on a vraiment des sépultures d'urgence de marins qui arrivaient à la côte noyée, donc les gens de l'époque les enterraient rapidement dans la dune. Là, on a vraiment une sépulture assez monumentale. Hein. Ben, on risque de trouver d'autres sites de ce type sur cette côte sableuse, donc entre Port-Joinville et la Pointe des Corbeaux. On a sans doute eu, possiblement, d'autres sépultures de ce type en bord de côte.
Ces prospections ont permis aussi de savoir que les lieux étaient occupés à l'âge de bronze.
Alors effectivement, il n'y a jamais l'idée de la désertion, parce que ça paraît peu logique, sur des îles qui surtout sont visibles de continents. C'est pas comme si c'était des lieux qui étaient inconnus. Mais là, justement, ça nous permet de voir un peu plus que, effectivement, c'est une occupation continue. Donc là, on voit un peu mieux, justement, la chronologie sur le long terme de l'île.
L'archéologie du littoral sont des études compliquées. Annabelle Chauviteau, correspondante sur les lieux pour le service régional d'archéologie.
L'archéologie du littoral, c'est toujours assez compliqué en termes d'études, puisque c'est des milieux naturels qui sont quand même très érodés, justement, mais qu'il faut aussi essayer de préserver un maximum. Donc, étudier un site sur la côte, ça veut dire essayer de sauvegarder les données qu'on peut, les données scientifiques, vraiment ce que le site a à nous dire, sans pouvoir vraiment l'investir totalement. Donc on ne peut pas enlever notamment le couvert végétal, puisqu'on accentuerait ce phénomène d'érosion. Donc on va à minima, tout en essayant d'en tirer le maximum de données possibles.
Laurent, Radio Neptune FM, L'Île-Dieu.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve le 16 octobre à bord du pédalo. Et oui, le 16 octobre, car votre émission favorite, celle qui vous accompagne où que vous soyez à toute heure de la journée, se met en veille. Et oui, l'équipage du sous-marin est en formation et ne sera opérationnel qu'à partir donc du 16 octobre. En attendant, continuez à écouter Radio Campus Angers, car nous serons pour vous au festival Les Électropicales à Saint-Denis-de-la-Réunion. On vous fera vivre ce festival incroyable jusque dans vos salons. On parlera voguing, on parlera vie étudiante, musiques électroniques en tout genre. À nos micros, on espère Gazo, Jeff Mills ou encore les excellents Digital Kabar. Alors restez bien à l'écoute du 103 FM. D'ici là, très très bonne soirée à toutes et à tous sur campus. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
À retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.